Loué et remercié soit le Seigneur, les temps anciens semblent revenir et nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Hier soir, j'ai pu moi aussi chanter. Je ne veux pas dire seulement chanter, mais chanter de tout mon cœur. Je ne sais pas combien de fois j'ai chanté ce cœur pur de cœur comme ils sont glorieux, purs de cœur comme ils sont joyeux, aussi beaux. 20 ou 30 fois ne suffisent certainement pas. Après le service divin d'hier soir, je me suis senti très bien. Je sais que Dieu nous a parlé. Il n'a pas seulement parlé à frère Branham, il n'a pas seulement parlé au prophète. Il nous a parlé. Et sa parole ne reviendra pas à vide. Sans effet à lui, elle accomplira ce pourquoi il l'a envoyé. Nous pouvons être confiants et lui faire entièrement confiance. Les paroles que nous avons déjà entendues en introduction parlent également de la foi, de la confiance que nous avons en notre Seigneur. En ce qui concerne la prédication que nous traitons, la prédication « Celui qui est en vous », j'aimerais lire le passage biblique qui s'y rapporte, tiré du chapitre 1 des Colossiens. Hier, nous avons déjà entendu une partie de ce chapitre dans la parole d'introduction. Il est dit ici dans Colossiens, chapitre 1, du verset 26, peut-être même déjà 25. Colossiens 1, verset 25. « Dont je suis devenu le serviteur par suite de la charge qui m'a été confiée par Dieu à votre égard, afin de transmettre parfaitement la parole de Dieu, à savoir le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Verset 27, « Car c'est à eux que Dieu a voulu faire connaître la plénitude de gloire que ce mystère renferme parmi les peuples païens. Cette richesse consiste en ce que Christ est en vous, comme l'espérance de la gloire. En particulier, l'accent mis sur cette phrase. Cette richesse consiste en ce que Christ est en vous. Frère Branham a lu les passages de l'Écriture, nous ne voulons pas nous répéter trop souvent, et a particulièrement insisté sur Jean 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand ou plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est ce que nous allons commencer à faire tout de suite en prenant à cœur les exemples qu'il a donnés. Je lis à la page 23. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien que nous ne puissions pas le comprendre, nous confessons que nous le croyons quand même. Cela commence déjà par cette expression. Bien que nous ne puissions pas le comprendre, le saisir par l'intellect, nous croyons néanmoins qu'il est vrai. La foi vient de la prédication. La prédication de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Et finalement, tout vient de Dieu. Et retourne à Dieu et reconduit à Dieu. Retourne à Dieu. Aboutit à Dieu. Tout ce qui part de Dieu aboutit à nouveau en Dieu. Et nous savons, comme frère Branham l'enseigne à ce sujet conformément à l'Écriture, que nous étions en Dieu et que nous le serons éternellement et que nous faisons donc partie de lui, chair de sa chair, eau de ses eaux, parole de sa parole, esprit de son esprit, vie de sa vie. Je continue. La lecture. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? C'est Christ, loin. Dieu qui était en Christ est en vous. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. S'il est en vous, ce n'est plus vous alors qui vivez. S'il est en vous, c'est lui qui vit en vous. Ce n'est pas votre pensée et ce que vous en pensez, mais ce qu'il en a dit. S'il est en vous, il ne niera certainement pas ce qu'il a dit. Il ne pourrait pas le faire. Il tiendrait ce qu'il a promis. Il essaie de trouver la personne par laquelle il peut se confirmer. Dieu cherche des gens et il en trouvera qui croiront sa parole du fond du cœur, qui pourront faire abstraction d'eux-mêmes et qui et recevront avec foi ce que Dieu a dit afin qu'ils puissent confirmer sa parole à travers eux. Il poursuit. Cela ne veut pas dire qu'il doit le faire pour tous. À l'époque où Moïse dirigeait les enfants d'Israël, il n'y en avait qu'un seul. C'était Moïse. Les autres suivaient simplement le message. Certains ont essayé de se lever et de l'imiter, mais Dieu a dit, sépare-toi, et ils ont simplement été engloutis. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est en vous comme il était en Jésus-Christ. Car tout ce que Dieu était s'est déversé dans le Christ. Et tout ce que le Christ était s'est déversé ou a été déversé dans l'Église. Celui qui est en vous, c'est Dieu en vous. Si nous pouvions séparer ce qui était terrestre de ce qui est visible, de ce qui est invisible, le domaine terrestre et le royaume de Dieu, et nous rendre compte que les choses spirituelles doivent être jugées spirituellement et que nous pourrions être à la disposition de Dieu en étant conscients. Dans le royaume de Dieu, il ne s'agit ni de toi, ni de moi, mais de Dieu, car il s'agit de son royaume, de sa parole, qui qu'il a donné et qu'il peut et va accomplir en tout temps. Celui qui est en vous, c'est Dieu en vous. Il n'est donc pas étonnant que le vent et les vagues aient obéi à sa parole. Ils obéissaient à ses paroles car c'était la parole de Dieu à travers lui. Il était un homme, mais il était la parole qui s'était faite chair. Quand il parlait, c'était Dieu qui parlait à travers des lèvres humaines. Arrêtons-nous ici encore une fois. Il était un homme, trouvé comme un homme en toutes choses. Mais ce qui sortait de ses lèvres humaines, était la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes des hommes. Mais ce qui sort de nos lèvres est la parole de Dieu. Et ce que nous croyons dans notre cœur est la parole de Dieu. Nous ne croyons pas en moi ou en toi. Nous croyons en Dieu, en notre Seigneur Tout-Puissant. Le texte se poursuit. Il n'est pas étonnant que le vent et les vagues étaient que le vent et les vagues aient obéi. Le même Créateur qui a créé le vent et les vagues était en lui. Réfléchissez bien à cela. Réfléchissez bien avant que je ne conclue. Il n'est pas étonnant que les démons aient été paralysés par sa parole. C'était Dieu en lui. C'était Dieu en Christ. Les démons étaient paralysés. Il n'est pas étonnant que le mort, qui était déjà sur le point de redevenir poussière, ne soit pas resté là, ne puisse pas rester là-bas, allongé à sa parole, car il était la parole. Il a parlé à Lazare, qui était mort depuis 4 jours et qui était déjà en décomposition. Son visage et son nez s'étaient déjà affaissés pendant ce temps. Lazare sort et un homme mort se tenait debout sur ses pieds. Pour quelle raison? C'était Dieu. Celui qui était en Christ est Dieu. Le mort ou la mort ne pouvait pas tenir en sa présence. C'était Dieu en Christ. Bien-aimé, l'ennemi n'aura aucun souci ni aucune crainte pour moi et pour toi. Mais si Dieu habite dans ton cœur et dans le mien par la foi, si nous croyons vraiment la parole de Dieu et si le Saint-Esprit la rend vivante, alors ce ne sont plus les lèvres dont Dieu a besoin. Ce ne sont plus les lèvres que Dieu utilise pour que l'on parle qui compte, mais celui qui habite en nous. Et c'est bien le sujet ici. Celui qui est en vous est plus grand ou plus puissant que celui qui est dans le monde. Et Paul dit que la richesse consiste en ce que Christ est dans nous. S'il est en nous, il fera ses œuvres. Et c'est ce que visent toutes ces prédications. Nous remarquons bien qu'il ne s'agit plus d'enthousiasme, d'un enthousiasme qui s'estompe en quelques minutes, qui disparaît en quelques minutes, mais d'un enseignement profond de la parole de Dieu. Il s'agit maintenant de plus, comme je l'ai dit hier soir, qu'il y a 20 ou 10 ans. Et notre frère a lu en dernier lieu, cher frère, en dernier lieu à la fin, et nous sommes arrivés là et avons entendu le dernier discours de Dieu. Et ce discours de Dieu n'a pas été emporté par le vent. Il y a des hommes sur la terre qui l'ont entendu, cru et reçu. Et la parole de Dieu sera confirmée par eux, aussi sûrement qu'elle a été confirmée par celui par qui Dieu a parlé. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est dit, plus loin, souvenez-vous que Dieu a créé le vent, l'air. Dieu a créé l'eau et les vagues. Mais lorsque le diable s'y est introduit, il les a agités pour apporter ainsi la destruction. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient les fils de Dieu, mais lorsque le diable entre en eux, il y a des difficultés. C'est le diable qui est entré dans le vent et a provoqué une tempête. Le Créateur qui avait fait le vent ne pouvait-il pas dire « Recule, recule, car je t'ai créé ». N'était-ce pas le même Créateur qui se tenait là, au sommet de la montagne? Il y a peu, n'est-ce pas le même? Nous l'avons lu hier soir, et cela m'a poursuivi très longtemps, alors que frère Branham se tenait là, appuyé contre l'arbre, ses larmes tombant dans le feuillage sec, et soudain, la voix retentit. Je le dis à partir de la page 18. Je suis le Créateur du ciel et de la terre. Je fais le vent et la pluie. Après cela, frère Branham dit, j'ai enlevé mon chapeau et j'ai dit, grand Jéhovah, où es-tu? Où est-ce? Ou alors, est-ce toi? Est-ce toi? Il répondit, et ici le Seigneur parle pour la deuxième fois. C'était moi qui ai ordonné au vent de se taire sur la mer. C'était moi qui ai ordonné aux vagues de se coucher. C'est moi qui ai créé le ciel et la terre. N'est-ce pas moi qui t'ai dit d'appeler à l'existence les écureuils qui sont alors apparus? Je suis Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ressent un être humain à un tel moment. Il y a là un homme comme vous et moi. Et soudain, la voix puissante de Dieu, le Seigneur, se fait entendre. Pas dans son cœur, pas dans ses pensées, mais elle descend du ciel et s'adresse à lui audiblement. Bien-aimé, nous nous en sommes rendus compte. Nous n'avons pas affaire à un message que quelqu'un a sondé à partir de recherches bibliques, mais à la parole et à la volonté révélée de Dieu pour ces derniers temps. Nous avons affaire à un homme envoyé par Dieu, par lequel Dieu lui-même a parlé et a agi de manière puissante. C'est la prédication dans laquelle se trouve la triste histoire de Karlsruhe qui s'est produite en août 1955. Et parce que c'est précisément dans ce contexte qu'il est dit ici, n'est-ce pas moi qui ai créé le vent et les vagues? Laissez-moi lire ici à la fin, comme nous y viendrons plus tard. Cela s'est passé en Allemagne lorsque les 15 sorciers qui se tenaient à ma droite et à ma gauche ont dit, « Eh bien, nous allons faire en sorte que cette tente soit soufflée. » Parce que Billy et frère Hagenbright ne voulaient pas les laisser me rejoindre. Ils se sont assis avec leurs objets magiques, ont invoqué leur Dieu, le diable. Et voilà qu'il est arrivé avec une tempête. Il y avait environ 30 ou 40 000 personnes. Et cette tente se balançait de haut en bas. Puis, ils ont pris des ciseaux, ont coupé une plume en deux et l'ont montré de la manière. Ils s'assirent là, exécutèrent leur tour de magie et prononcèrent les trois paroles sacrées en disant « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout cela se passa ainsi et la tempête se leva effectivement, certainement, car c'est Satan qui a le pouvoir sur l'air. Ils ont invoqué la tempête. Cette tente géante avait la surface d'un bloc de maison. On avait placé des bois et carré et tendu une toile de tente par-dessus. Le vent passait en dessous et la soulevait tandis que la tempête faisait rage et que les éclairs brillaient. J'ai continué à prêcher. Puis ils commencèrent à faire un grand numéro de magie, continuèrent ainsi et prononcèrent ces paroles sacrées. Ils prononcèrent les trois autres paroles sacrées, Père, Fils, Saint-Esprit, des deux côtés. Je le vis s'incliner, entouré de diables qui n'étaient pas encore liés. J'ai dit à frère Lauter, ne traduis pas cela maintenant. Puis j'ai dit, frère Hagenbreit, prie. J'ai prié, Seigneur, mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu m'as envoyé ici. J'ai posé mon pied sur le sol allemand au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi qui m'as envoyé ici. Cette force obscure n'a aucun pouvoir sur moi. Elle ne l'a pas. Car j'ai été loin et envoyé ici pour le salut de ces hommes. J'ordonne au nom de Jésus qu'elle s'éloigne d'ici. Les coups de tonnerre ont éclaté juste au-dessus de la tente, puis les nuages se sont dissipés et le soleil a percé. En l'espace de 10 minutes, 10 000 personnes se sont tenues autour de l'autel et ont crié grâce, car elles avaient vu la puissance de Dieu. Pour quelle raison? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Voilà. Jusqu'ici, je ne sais pas si le frère Reinhold Hilling était dans la tente quand elle s'est mise à bouger. J'étais là du premier au dernier jour, là-bas. Je ne savais évidemment pas ce qui se passait. Je savais seulement que les responsables étaient pris de panique et qu'il y avait des mouvements de foule, mais je n'ai vu qu'une tempête qui était là sans savoir en détail ce qui se passait. Et c'est là que frère Branham a dit très clairement ce qui s'est passé à l'époque et que l'on soit étonné. La semaine dernière, cela m'arrive très rarement d'écouter la radio, mais quand je suis en route, que je vais en ville et qu'il y a des nouvelles, je l'allume. Et je l'ai laissé allumer un instant à la radio allemande, et ensuite une interview a eu lieu avec un des principaux magiciens, sorciers. Et on a dit combien de milliers il y en avait en Allemagne, des sorciers. Et le journaliste a demandé, est-ce qu'on peut apprendre? Il a répondu non. Y a-t-il des livres sur le sujet? Oui, des milliers, sur la sorcellerie. Et il a dit, on peut lire tous ces livres et ne pas l'avoir appris. On ne peut pas l'apprendre, il faut être né pour le faire. Et j'ai écouté toute l'histoire comme ça. Je me suis dit, oui, qu'est-ce que c'est? Il faut être né pour cela. Bien-aimés, il me vient à l'esprit qu'il faut être né de nouveau pour avoir accès à la puissance de Dieu. Si de telles personnes, submergées par l'ennemi, disent que cela ne s'apprend pas, qu'il faut être né pour cela, alors nous pouvons tout de même dire, on ne peut pas apprendre la puissance de Dieu. Il faut naître de nouveau, être placé dans le royaume de Dieu. Et alors, la puissance de Dieu se manifeste. On peut lire tous les livres de théologie et même la Bible, mais on n'a pas encore accès à ces choses. Vous savez, parfois je reçois un sermon à travers des choses qui ne sont pas du tout des sermons. Et je pense en moi-même, oui, il faut comprendre tout cela. Combien de personnes ont lu, qui sait combien d'exposés sur les saintes écritures, sur les miracles, sur tout, et sont ensuite étonnés, rien de plus. Il faut être né pour cela. Dieu a des hommes qui sont nés de nouveau pour une espérance vivante. Des gens qui ont été destinés à ce que la puissance de Dieu puisse se manifester à travers eux au nom de Jésus-Christ. Cela ne s'apprend pas, cela doit venir de Dieu et être donné à chacun. Cela m'a ému ici dans la mesure où le Seigneur a dit, je suis le Créateur du ciel et de la terre. Et que frère Branham a demandé à l'époque sur le sol allemand, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Et Dieu a entendu, a exaucé. Dieu est intervenu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Vous savez, nous les humains, nous sommes assis dans une assemblée où il y a des milliers de personnes et nous ne savons pas du tout ce qui se passe à droite, à gauche ou ailleurs. Nous remarquons peut-être des circonstances, mais nous ne savons pas quel est le contexte ou ce qui est caché. Un prophète de Dieu est sur la plateforme et il voit ce qui se passe à droite et à gauche. Puis, il invoque le Dieu du ciel, le Créateur du ciel et de la terre. Et il a exaucé, il a entendu. C'est justement sur le sol de notre pays qu'il a fait cette expérience. J'allais dire, a dû faire. Bien-aimés, nous ne sommes pas trop entouré de bons esprits. Et ce qui m'a aussi un peu touché en lisant cette parole, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans le monde céleste. Permettez-moi donc de le relire afin que nous ayons bien compris. D'après ce que j'ai compris, c'était ici, Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans le monde céleste. » Si les mauvais esprits étaient dans le monde infernal, en enfer, nous aurions une chose simple sur terre. Mais les mauvais esprits sont dans le monde céleste. Et s'ils agissent aussi de manière religieuse, hein, on finit par ne plus savoir où l'on est, où l'on en est. Et je pensais, quand cette parole a été lue ici, avec les pouvoirs et les puissances et les principautés, et ainsi de suite, dans le monde céleste, je le répète, si toutes ces armées sataniques étaient dans le monde infernal, dans le monde de l'enfer, nous aurions déjà le ciel sur la terre. Mais parce qu'ils sont dans le monde céleste, dans le domaine de l'air, donc aérien, et qu'ils exercent une influence sur cette terre, c'est pourquoi il y a encore la lutte pour la détresse. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu de manière particulière. Il est encore dit ici, c'est pourquoi celui qui était celui qui était en Christ, est aussi à nous, car il accomplit les mêmes œuvres, les mêmes choses qu'il a faites. Les mêmes choses que lui. En sa présence, les morts ne pouvaient pas rester morts à sa parole. Vous voyez? Nous avons 5 déclarations crédibles de personnes qui étaient mortes. Le Seigneur a donné une vision. Je suis allé les voir et ils ont été ressuscités. Quelqu'un est assis ici en ce moment qui était mort là-bas, où il est assis maintenant. Il est vivant bien qu'il ait succombé à une crise cardiaque. Il est plus grand, car il est Dieu, le Créateur. Le vent et les vagues devaient lui obéir. Les démons ont été paralysés. Toute la nature lui obéissait, car il était le Créateur de la nature. Oh, si nous y réfléchissons, cela touche à l'essentiel. Oh, si nous y réfléchissons, cela touche le fond. Et c'est cela qu'il faut toucher. C'est lui qu'il faut toucher. Et nous voulons atteindre le cœur de la chose et nous devons l'atteindre. Maintenant, il y a quelque chose pour nous tous. L'homme ne peut pas faire cela, car il fait partie de la création. Mais les vents et les vagues obéissent au Créateur. Seul le Créateur peut le faire. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est le Créateur qui a fait le vent. Il peut réprimander le diable qui est dans le vent, et tout s'arrête. Il peut réprimander le diable qui est dans la tempête, et la tempête se calme. Il est le Créateur. Nous le savons, et beaucoup d'autres aussi, Mais frère Branham dit que nous devons aller au cœur de la question. Et le cœur de la question, à mon avis, n'est pas seulement de savoir et de croire en général que Dieu est le Créateur. Car beaucoup savent que sans Créateur, il ne peut y avoir de création. Je veux dire qu'avant la fin du temps de grâce, Dieu a des choses à faire en manière de création. De faire des miracles de création, des miracles de guérison, comme il n'y en a jamais eu. Et Dieu veut, par ses prédications, faire naître en toi et en moi la foi en la présence du Créateur et en la puissance créatrice du Dieu Tout-Puissant, afin que nous comprenions que ce n'est pas à nous, mortels, faillibles et faibles, de faire quelque chose, mais que nous devons simplement être à la disposition de Dieu afin qu'il puisse agir et se montrer en tant que Créateur avec sa puissance créatrice à travers nous. Et il en va de même pour le salut, la guérison, la délivrance, pour tout. Il est dit plus loin, Jean avait dit aux disciples, vous avez entendu parler de l'Antichrist qui va venir et qui est déjà à l'œuvre ici dans les enfants de la désobéissance. Mais vous, petits enfants, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Christ en vous. Et nous avons lu dans Colossiens 1, 27, que toute la richesse de Dieu consiste en ce que Christ est en nous, lui qui est l'espérance de la gloire. Il est dit plus loin, celui qui a créé le ciel et la terre s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ, Dieu, et a réconcilié le monde avec lui-même. Nous voulons voir, vous dites que ce n'était pas le Fils de Dieu, frère Branham. Très bien. Déterminons s'il est le Dieu éternel et perpétuel. Et puis continuons. Mais celui qui était en Josué était plus grand que les lois de Dieu, car le Créateur lui-même était en Josué. Lorsqu'il leva les yeux et dit, reste là où tu es en ce moment. Et toi, lune, reste là où tu es. Jusqu'à ce que ce combat soit terminé. Et le soleil et la lune lui obéirent. Car celui qui était en Josué est plus grand que le soleil et la lune. Celui qui était en Josué. Quels exemples nous sont donnés ici? Et peut-être réfléchiras-tu maintenant à la question suivante. Comment étaient donc ces hommes de Dieu? Exactement comme toi et moi, et pas autrement. S'ils avaient été des anges, ils auraient été au ciel et non sur la terre. Ils étaient des hommes. Et c'est pourquoi ils étaient ici. Et ce que Josué a ressenti ou non, 5 ou 10 ans auparavant, n'était pas du tout la question. C'est ici que se posait la tâche dans le royaume de Dieu. C'est ici que Dieu est intervenu et ce qui devait arriver et était nécessaire est arrivé et a été exprimé au nom du Seigneur. Et je crois de tout cœur que la puissance dont nous avons besoin ou la tâche à laquelle nous serons peut-être confrontés dans 3 ans, nous n'avons pas besoin de nous y préparer aujourd'hui, dans le sens de nous préparer intérieurement. Mais nous avons besoin de la puissance et de la tâche pour le moment, pour ce jour, et Dieu nous la donnera. Qu'est-ce qu'un Moïse? Qu'est-ce qu'il était? Qui était-il? Un jour, Moïse est allé tuer un Égyptien et l'a enterré dans le sable. Puis il a voulu brièvement régler un différend entre les membres de son peuple. Et on lui a dit, veux-tu me tuer moi aussi comme tu as tué l'Égyptien? Moïse prit la fuite et pendant 40 ans, on n'entendit plus parler de lui. Mais lorsque l'heure de Dieu sonna, Moïse était un tout autre Moïse. Il n'est pas parti avec le droit du poing, mais son droit était fondé sur la promesse de Dieu. Et l'heure était venue. Le même Moïse était méconnaissable. Tous prirent la fuite, sauf lui. Mais auparavant, il avait pris la fuite. Je crois que Dieu, dans sa grâce, peut tout faire. Maintenant, frère Branham présente ici les exemples de Moïse. Mais il s'agissait pour moi, dans ce contexte, de quelque chose que frère Branham a rapporté à lui-même en disant que ce n'est pas lui. Et je continue à lire rapidement à la page 26. Lorsqu'il arriva à la mer Rouge et qu'elle se trouva sur son chemin, Dieu dit, parle à la mer. Et Moïse parla à la mer. Celui qui était en Moïse a été plus fort que la mer elle-même. Est-ce vrai? Vois-tu? Celui qui était en Moïse était plus grand que celui qui était dans le monde. Celui qui était en Moïse est plus grand que tout être existant dans ce monde. Il commandait à la nature tout ce que Dieu lui disait, il le prononçait et cela se produisait. Ce même Dieu est avec nous ce soir. Pas seulement avec nous, mais en nous. Il a prouvé qu'il est en nous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. De quoi avons-nous peur dans le monde? Ce sont tous des exemples magnifiques, et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas une théorie, mais que c'est du vécu, que c'était et que c'est de la pratique. Continuez. C'est ainsi que beaucoup de frères sont excités. Ils ont l'impression que Dieu dit « Fais une certaine chose ». Ensuite, ils disent que c'est ainsi parle le Seigneur, alors que ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle cela ne se produit pas. Mais si Dieu le dit effectivement, alors il doit en être ainsi. Là aussi, j'ai omis quelque chose, comme vous le remarquez, là aussi, il y a une grande chose. Ce n'est pas ce que toi et moi voulons transformer en ainsi par le Seigneur, mais seulement ce que Dieu a réellement dit qui est ainsi par le Seigneur. Nous voulons faire de certaines choses des ainsi par le Seigneur, et à la fin, il s'avère que ainsi parle, c'est seulement ainsi parle un tel. Et ainsi parle un tel, et nous pouvons nous y passer, car il n'arrive alors que des malheurs. Il est dit plus loin, celui qui était en Moïse, puis celui qui était en Daniel est plus grand que les lions. Je ne mentionnerai que brièvement les points principaux. Celui qui était dans les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, était plus fort que celui qui avait allumé le feu. C'est tout de même merveilleux, ou a provoqué le feu. Ils ont été jetés dans le feu. Et celui qui était en eux est resté avec eux et n'a pas permis qu'ils soient consumés par le feu. La fournaise était chauffée 7 fois plus que jamais auparavant. Mais celui qui était avec les 3 Hébreux est plus fort que celui qui est dans le monde. L'exemple d'Élie, celui qui était en Élie était plus fort que le ciel, qui ressemblait à de l'airain, car il ordonna que la pluie vienne, alors qu'il n'avait pas plu depuis 3 ans et demi. Celui qui était en Élie était plus fort que la mort. En effet, lorsque le moment de sa mort arriva, Dieu regarda le vieux prophète fatigué qui avait réprimandé Jézabel avec tout son maquillage et toutes ces choses modernes et qui était maintenant fatigué. Il ne le laissa pas simplement rentrer chez lui comme Enoch, mais il envoya un chariot, le fit monter et le ramena chez lui. Celui qui était en Élie est plus grand que ce qui était à Jérusalem, en Judée et dans les montagnes. Il est même plus fort que la mort. Celui qui était en Élie est plus grand que les sépulcres, car il a échappé au sépulcre et à la mort. Et il est monté dans un char pour entrer chez lui. Il était plus grand et était dans Élie. C'est maintenant, je pense, que vient cette phrase. Vous dites, eh bien, c'était un grand homme. Un instant, s'il vous plaît. La Bible dit que c'était un homme de la même espèce que nous. Jacques 5, 17. C'est vrai. Mais quand il priait, il croyait qu'il recevait ce pourquoi il priait. C'est ce que Jésus nous a dit. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 24. Il y a même de l'espérance ici pour toi et moi, de l'espoir. Frère Branham mentionne ici, vous dites, eh bien, c'était un grand homme. Il était aussi grand et aussi petit que vous et moi. Et livré à lui-même, il a pu faire autant et aussi peu que vous et moi, que vous et moi. Mais sur l'ordre du Dieu le Seigneur, il a pu dire et exprimer ce que Dieu voulait. Et cela s'est produit. De quoi s'agissait-il? De l'accord total entre ce que Dieu utilise et ce que Dieu veut. Et c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Dieu a envoyé le prophète Élie. Et les cœurs des pères ou les cœurs des enfants sont tournés vers les pères. Celui qui était en Élie est plus grand que la nature. Qu'en est-il alors de la guérison des malades? Celui qui est en vous est plus fort que toute maladie, car elle détruit les lois de Dieu. C'est la première fois que je lis cela. La maladie détruit les lois de Dieu. Et Dieu s'élève contre elle, car sa loi est sa parole. Et il est dit ici, elle détruit les lois de Dieu. Voilà ce que fait la maladie. Mais celui qui est en vous, c'est le guérisseur et le créateur. Il est plus grand que le diable qui détruit votre vie. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Plus grand était celui qui était en Élie, lui qui était en Ésaïe et dans les autres prophètes. Il est plus grand que le temps, car ils ont vu au-delà du temps. On pourrait lire beaucoup de choses. Nous arrivons lentement à la conclusion. Écoutez, j'aimerais que nous ayons le temps de continuer. Mais je voudrais vous poser une question à propos d'une remarque que j'ai entendue sur le Christ en vous. Ne vous contentez pas de ce que vous avez fait. Ne dites pas, j'ai ressenti un frisson, j'ai parlé en langue, j'ai dansé en esprit. Je n'ai rien contre tout cela. C'est très bien. Mais ne vous y fiez pas. Votre vie doit l'être. C'est de cela qu'il s'agit. Vous devez devenir un avec la parole. Alors elle se fera connaître d'elle-même. Paul pouvait dire, Christ est ma vie, mourir est mon gain. Il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Et ici, nous sommes invités à ne faire qu'un avec Dieu, avec sa parole, afin que Dieu puisse mettre sa parole à exécution à travers nous. Il ne s'agit donc pas de représentation, mais d'un processus divin, d'une démarche de valeur divine qui se déroule en ce temps. Et je crois de tout cœur que Dieu nous donnera la grâce de devenir notre vie, que Dieu soit notre vie, que nous sommes morts à nous-mêmes et que cette puissance créatrice, guérisseuse, salvatrice, vivifiante de Dieu peut se manifester en ceux qui l'ont reçu, qui l'ont vécu. Ici, Frère Branham donne encore rapidement deux exemples. Il dit, si l'esprit de Shakespeare vivait en moi, je ferais ce qu'il a fait. Si l'esprit de Beethoven vivait en moi, je ferais ce que Beethoven a fait. Et il conclut, mais celui qui est en vous, c'est Christ. Et si Christ est en vous, si Christ habite en vous, vous ferez les œuvres de Christ. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Si vous êtes en Christ et que Christ habite en vous, Christ est la parole. Est-ce vrai? La parole vient à ses prophètes. Si Christ habitait en vous, les œuvres de Christ s'accompliraient par vous. La vie serait vécue à travers vous, les œuvres qu'il a faites, la vie qu'il a menée, tout vivrait à travers vous. Exactement comme si Shakespeare ou Beethoven vivaient en vous. Seulement, c'est sa vie vous habite. Mais si vous vivez encore en vous-même, alors vous ferez vos œuvres. Mais si le Christ habite en vous et que vous vivez la vie du Christ, alors celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si le doute et la confusion règnent en vous au sujet des promesses de Dieu, c'est que Christ n'est pas là-bas. Vous ne faites que vous enfoncer dans quelque chose. Christ n'est pas là. Mais si la vie de Christ est en vous, il reconnaîtra sa parole et accomplira sa promesse. Il le fera. C'est aussi une parole qui nous est adressée à tous. Lorsque le doute et la confusion règnent, nous nous laissons entraîner dans quelque chose et il ne se passe rien ou ce que nous ne voulons pas se produit. Mais lorsque la clarté vient et que la parole du Seigneur est placée sur le chandelier, que nous sommes conduits par l'Esprit dans toute la vérité et que nous nous soumettons à la main de Dieu, alors là, il accomplira sa promesse. N'avons-nous pas lu hier comment le Seigneur a dit à Frère Branham, tu t'es souvenu de ce que tu avais promis. Je me souviens de ce que j'ai promis. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant crie à son serviteur et prophète. Aujourd'hui, il le dit à toi et à moi. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Que vous avez reçu ce que vous avez demandé et cela vous sera accordé. Si vous dites à cette montagne, transporte-toi, et que dans votre cœur vous ne doutiez pas, mais que vous croyez que cela se produira, ce que vous dites, vous pouvez l'avoir, ce que vous exprimez. Le Père agit, et moi aussi j'agis. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Lorsque le Père lui a montré ce qu'il devait faire, il s'est avancé sans faillir une seule fois et a dit que cela se fasse et que cela se fasse et cela se fasse et cela s'est fait. Cela s'est fait. Le même Christ habite en vous, il vit en nous. C'est pourquoi nous faisons ses œuvres, car Christ est la parole. Une promesse de la parole vous apporte la guérison. Le croyez-vous? Bien sûr que oui. Ici, laissez-moi juste souligner rapidement. C'est effectivement écrit dans Jean 5, verset 19. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est là que le bât blesse. Le Sauveur n'a pas fait ceci, cela ou autre chose. Il a attendu qu'on lui montre ce qu'il devait faire. Et alors, il l'a fait, car il était ici dans un corps de chair. Vous voyez de quoi il s'agit? Parfois, les croyants pensent, oui, si le Seigneur est avec toi, pourquoi ne fais-tu pas ceci? Pourquoi ne fais-tu pas cela? Vous pouvez tout oublier. C'est justement parce que le Seigneur est avec moi que je ne fais pas ceci, que je ne fais pas cela. justement, je pourrais alors faire ce que je voudrais, mais je ne le veux pas. Et je ne le veux pas, et tu ne le veux pas non plus. Nous ne le voulons pas tous. Nous voulons attendre pour voir quand la colonne de feu se lèvera et quand Dieu voudra faire quelque chose. À quoi mon action vous servirait-elle? Mais rien du tout. Elle ne fera que vous nuire, même si elle était accompagnée de beaucoup de choses différentes. J'ai dit, et je dois peut-être le dire, dans la dernière prédication que nous allons, si Dieu le veut, terminer de traduire demain, que Frère Branham a dit quelque chose qui serait manifestement contraire à ce qu'il a dit dans la prédication l'ordre de l'Église. Dans l'ordre de l'Église, il dit, le prédicateur doit se retirer et être seul devant la face de Dieu, se concentrer, se recueillir et lire l'Écriture, sinon il ne peut pas se présenter devant les gens. C'est à peu près ça. Et je dois dire que je me suis senti un peu blessé à ce sujet, peut-être, n'est-ce pas tout à fait bien exprimé, mais je n'ai pas toujours eu le temps d'étudier en profondeur la parole de Dieu avant chaque prédication. Mais j'ai toujours eu le temps de faire confiance à Dieu, de lui faire totalement confiance, même si je n'avais pas le temps d'avoir toujours le temps de croire, même si je n'avais pas le temps, mais j'avais toujours le temps de croire que Dieu me donnerait par son esprit la parole et les pensées justes. Et voilà que Frère Branham se présente devant l'assemblée et dit, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai même pas pu ouvrir ma Bible et lire une seule parole. Je suis juste venu ici comme ça. Et là, je me suis dit à moi-même, alors maintenant, tu te sens un peu mieux, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas satisfait à sa propre loi ce jour-là, mais il est venu comme ça. Il est venu comme ça. Et là, nous voyons à quel point la grâce de Dieu est indescriptible, inconcevable pour nous tous. Et nous l'avons déjà dit, et nous devons conclure en remerciant le Seigneur, notre Dieu, pour le grand privilège que nous avons de ne pas devenir dogmatique, de ne pas être fanatique, de ne rien vouloir faire. Une seule chose, nous édifier intérieurement, pas à pas, spirituellement, sur le fondement saint de la foi. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu nous a donné suffisamment de matériaux pour pouvoir édifier, pour pouvoir bâtir. Et puis Paul dit encore dans 1 Corinthiens, Paul dit dans 1 Corinthiens 3, peut-être au verset 10, que chacun regarde comme il bâtit. Il ne s'agit donc pas seulement de bâtir, mais de bâtir correctement, que comme Moïse, qui avait vu sur la montagne sainte comment tout devait être fait, que Dieu nous prenne sur cette montagne sainte et qu'il nous aide effectivement à être édifiés par lui, à devenir une habitation de Dieu en esprit. Il le fera. J'en suis absolument et totalement convaincu. Et vous pouvez me croire, ce que le traitement de ces prédications provoque chez les gens n'est pas croyable. Quelque chose de merveilleux, d'unique, de jamais vu. Combien de fois ai-je entendu des gens lire et dire, j'ai simplement lu, et pourtant je ne sais pas ce qui est écrit ou ce que le Seigneur a dit. Comme c'est merveilleux que nous puissions ainsi le contempler et l'étudier ensemble à nouveau. Et que cela ne soit pas vain, mais que même ce ministère accompli dans la faiblesse soit transformé en puissance par le Dieu Tout-Puissant. Et que ces prédications fassent ce pourquoi Dieu les a envoyées ici et là-bas, dans tous les pays où elles seront entendues. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour ce grand privilège que nous ne pouvons pas encore comprendre, que tu nous as donné par grâce de pouvoir entendre ce que l'Esprit dit aux églises, d'entendre ce que ta bouche sainte a dit. Seigneur bien-aimé, ta parole ne reviendra pas vide. Elle accomplira ce pourquoi tu l'as envoyée et réalisera ce que tu as voulu. Seigneur bien-aimé, nous ne voulons pas d'enthousiasme. Nous voulons une action de l'Esprit par ta sainte parole. Et nous nous plaçons consciemment sous la couverture du sang de l'agneau. Nous nous soumettons à ta parole et te demandons la direction de ton esprit, la conduite de ton esprit. Seigneur fidèle, fais que nous soyons unis à toi de telle sorte que tu puisses parler à travers nous. Mon Dieu, si tu veux marcher sur cette terre, où sont les pieds dont tu te sers? Si tu veux parler, où est la bouche que tu peux prendre? Si tu veux bénir, Seigneur, où sont les hommes? Je te prie, ô Dieu, de nous regarder avec grâce et de nous bénir afin que nous puissions être une bénédiction. Et si tu veux nous utiliser, fais-le nous savoir. Nous sommes à ta disposition et te rendons gloire. Dieu fidèle, je te remercie pour l'envoi de ton messager, de ton serviteur, de ton prophète. Comme tu nous as fait vivre ta parole et tu nous as fait connaître ta volonté. Seigneur, tu nous as rendu ta parole vivante. Seigneur, accorde-nous le discernement sur la base de ta parole et la connaissance de ta parole, de ta volonté. Que ton esprit seul règne au milieu de nous et que ta parole seule soit la lampe de nos pieds. Qu'aucun feu étranger ne soit allumé sur ton autel, mais que le feu divin saint vienne sur nous tous et que nous en soyons tous saisis. Seigneur, bénis avec nous ton peuple dans l'adoration universelle sur toute la terre. Nous savons que le temps est court, mais tu l'utiliseras. Tu peux faire plus en une semaine que nous en 1000 ans. Tu es le Dieu Tout-Puissant et nous te faisons confiance. Celui que toi qui étais en Moïse, toi qui étais en Josué, toi qui étais dans tous les prophètes, sois en nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Confirme ta parole par des signes et des miracles successifs. Sauve ceux qui doivent être sauvés et guéris, relève. Ô Seigneur, nous te louons. Révèle-toi, Seigneur, nous te louons. Nous te remercions et nous t'adorons. Alléluia à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Amen.